Spécifique. Merci monsieur.
Merci à vous.
Bonne chance pour toi.
Merci.
Qui et sont des espèces qu'on appelle K. Alors, pardon, c'est un peu technique, mais il y a deux stratégies fondamentales de reproduction. Celles qui sont quantitatives, qui sont liées à des environnements dont les ressources fluctuent très rapidement, brutalement. Donc les populations répondent, ça va bien, on se reproduit, ça va pas bien, ça élimine. Donc ça, c'est typiquement les rongeurs. Et leurs prédateurs, comme les chats. C'est pour ça que les chats ont une résilience énorme, parce que les chats, si ça va bien, ils se reproduisent à toute vitesse, si ça ne va pas, les femelles bloquent aussi. Donc là, évidemment, les petits naissent très immatures, comme vous savez, et ensuite ils se reproduisent très vite et adviennent que pourra. Très peu d'éducation, de l'allaitement, etc. Ça n'empêche pas qu'on s'éclaira, soit assez intelligent. Nous, on fait partie d'espèces assez rares, qu'on appelle des espèces K. C'est-à-dire que les femelles mettent un seul petit au monde après une longue gestation. Sevrage après 3 ou 4 ans, enfance longue, adolescence plus ou moins longue, âge adulte entre 10 et 20 ans, et ensuite l'espérance de vie advienne que pourra. Ça, ce sont les éléphants, certaines espèces de dauphins, de baleines, et les grands singes et l'homme. Et chez toutes ces espèces, on sait qu'il y a des cultures, c'est-à-dire que ces espèces ne peuvent pas survivre sans la transmission des savoir-faire et des expériences et des compétences des générations précédentes. Parce que lever un individu pendant plus de 10 ans, il faut une société, il faut des compétences, très compliquées. Et par ailleurs, chez toutes ces sociétés animales, on a des comportements tout à fait particuliers autour de la mort d'un individu. Parce que ce sont des espèces sociales, ils se reconnaissent individuellement, on sait qu'ils se reconnaissent dans un miroir, en fonction, c'est pas le test ultime. Voilà. Maintenant, les chimpanzés, c'est un peu plus compliqué. Et vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. On sait depuis 3 ans. Il y a une clairière, c'est la forêt de Taï. Alors, c'est pas intéressant de rappeler que ces chimpanzés de la forêt de Taï, on les connaît depuis presque 200 ans. Donc, on connaît leur histoire. On a l'histoire de ces populations, plus ou moins fragmentées. Ils sont les plus doués pour utiliser les outils, c'est les plus doués pour la répartition des tâches. Et socialement, ils sont hyper doués. Ils ont des notions d'éthique, ils sont absolument incroyables. Ils sont super doués. Et là, au milieu d'une clairière, vous avez un tronc d'arbre mort, dans lequel ils ont mis des pierres. Et là, c'était filmé, vous avez un chimpanzé qui est devant. Il est tout seul, le chimpanzé. Il n'est pas en train de parader vis-à-vis des autres. Il ne sait pas que la caméra, en plus. Et là, il fait des choses tout à fait particulières, comme une espèce de. Vous savez, comme une espèce de transe. Et à un moment, et ensuite, il tape, c'est ce qu'il sait très bien faire, il tape avec ses postérieurs sur la pierre, il salue, il s'en va. Donc c'était filmé. Pourquoi ? Voilà, je vous donne les faits. Et il n'est pas le seul à le faire, donc il semblerait qu'il y ait des éléments de pensée abstraite ou complexe.
Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi votre...
Je ne sais pas. En tout cas, c'est très clair. Mais vous savez, les chimpanzés, vous venez les connaître, ils font de la politique, ils ont de l'empathie, ils sont très doués pour le commerce, enfin bon, ils sont capables de stratégie, ils sont capables d'anticipation. Tout ça, c'est bien avéré maintenant depuis 10 ans. Et on continue à avoir des surprises. Mais le monde animal, pour revenir à ce que c'est, le monde animal, c'est un monde encore, malgré les évolutions mythologiques depuis 50 ans, c'est un monde qui est quasiment inconnu. Vous savez, quand les animaux, ils nous donnent ce qu'on a envie de voir, ils sont pas idiots. Hein. Ils ont des représentations, ça dépend des espèces, bien sûr, mais un chat ne va pas se comporter chez nous comme au Japon, même si c'est la même espèce, parce qu'ils sont capables d'apprécier, ou les chiens, c'est pareil. Et donc, en fait, on espère beaucoup, avec les capteurs et l'intelligence artificielle, être capable de percevoir des éléments d'interaction entre ces espèces qui, pour l'instant, nous échappent. Parce que les chimpanzés, c'est compliqué. Ils se rassemblent, ils ne savent pas, ça s'appelle les sociétés de fusion-fission, ce qu'on fait tous les jours. Hein. On se rassemble pour certaines fonctions sociales, amicales, professionnelles, on ne sait pas. Et donc, vous avez une communauté de chimpanzés et 50 individus, vous n'allez pas mettre 50 chercheurs derrière. c'est absolument impossible. En plus de ça, ils nous utilisent. Donc là, même si c'est raté, parce qu'ils savent utiliser les humains pour leur stratégie sociale. Donc voilà, c'est un monde qui, pour lequel nous échappe et où ces questions sont vraiment pertinentes. Voilà. Donc scientifiquement, on est obligé d'être sur la réserve, mais très clairement, on a beaucoup de données qui sont vraiment troublantes. Sauf que, comme dans nos sociétés, si tout va bien, les accidents de la vie sont rarissimes. Donc la probabilité d'arriver sur un moment où les chimpanzés sont évidemment confrontés à un des leurs qui est mort, et là je vous donne un dernier élément, il y avait un chimpanzé mâle, c'était le numéro 3 ou 4, donc il n'était pas plus haut dans la hiérarchie, toujours les chimpanzés de la forêt Taï, qui avait disparu depuis 2-3 jours, on ne savait pas où il était, quand même bizarre. Donc le groupe se déplace, et il tombe dans la clairière sur le corps de ce chimpanzé qui est mort. Là, les mâles dominants arrêtent la trouille. Les mâles dominants se mettent autour du corps. Et ils épouillent le cadavre. Or, quand on est quatrième dans la hiérarchie, on épouille, on n'est pas épouillé. Et là, les dominants épouillent le cadavre. Ensuite, ils tournent autour, ils font venir la famille, parce qu'ils connaissent très bien leur relation familiale. Ils tournent autour, le reste du groupe vient, et ils recouvrent le corps de l'enfant. Sauf que ça, on est dans la brousse, le corps disparaîtra, il sera décomposé, les feuilles disparaîtront. Une maman, pareil, qui perd un petit, va le garder jusqu'à ce qu'il se décompose. Pardon, c'est dramatique et c'est pas très réjouissant. Mais voilà, ils ont vraiment des... Moi, j'ai vu deux choses que j'ai filmées. C'est ça qui a lancé tout sur les grands singes en France il y a 20 ans. J'ai pas filmé ça. La naissance d'un chimpanzé. C'est un événement absolument extraordinaire. Tout le groupe fait ça. Même les mâles dominants, ils sont d'une douceur. C'est mal, c'est une puissance, c'est pas idée. Ça fait 60 kilos, le chimpanzé. Pas idée de la puissance. Eh bien, les mâles sont. Enfin, c'était papa gâteau. Ils sont complètement fascinés par le petit. C'est un événement nouveau. Et autour de la mort, ils sont aussi capables de comprendre. Mais ils sont aussi comme nous, ils savent donner la mort. Parce que quand on a de l'empathie, on peut faire souffrir les autres.
Et on a entendu le fond. Pour compléter, pour aller au bout de votre question, peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'il y a le rite autour de la mort n'est pas spécifiquement humain. En revanche, ce qui est spécifiquement humain, c'est l'agrégation d'un ensemble de choses qui sont le rite autour de la mort, la technique, les représentations symboliques,
c'est ça.
Les structures sociales, etc. Et que ça, c'est vraiment spécifique.
Le symbolique, la cosmétique, tout ce qu'il y a, c'est.
Ça, c'est spécifique.
Oui, tout à fait, absolument. Donc, c'est pour ça, merci Xavier, c'est pour ça que quand on dit qu'il y a. On n'enlève rien à l'homme, vous savez, on est encore les héritiers d'une pensée qui nous vient d'Aristote, qui dit que le monde est complet. Et si le monde est complet, si on donne quelque chose à une espèce, on a l'impression qu'on nous le pique. Mais attendez, c'est partie de la philosophie, continue avec ça, dans le dualisme fondamental. Donc c'est complètement bien, ça ne nous enlève rien, ça nous permet de comprendre nos origines communes, et surtout comment on est devenu humain et nos spécificités. Voilà, ce que je veux dire, Xavier est tout à fait clair à cet égard.
Voilà. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. J'avais une question.
Juste pour dire qui vous
appelle. Oui, donc Éric Ledeau, je suis adjoint au directeur des ressources humaines des ministères sociaux. J'essaie un petit peu de voir le fait que partout dans le monde, il y a une sorte de pensée religieuse qui s'est développée, parfois même moment. La question c'est, est-ce que c'est un peu consubstantiel à l'homme dans sa relation à la nature, de penser de bâtir un fait religieux et de développer des croyances?
Ben, je pense que moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais jeune, on avait une encyclopédia universelle, vous vous souvenez, c'est une vraie histoire. Et il y avait un moment, l'entrée question. Et on voyait des gens devant des gros ordinateurs de l'époque, au milieu des années 70, qui disaient, c'est quoi une question? Je crois qu'effectivement, à partir du moment où on se pose la question, pourquoi? Qu'effectivement, là, on a commencé à construire toutes ces passions, c'est une partie des réponses possibles, hein. Je peux être tout scientiste, bien évidemment. Et philosophie, les religions apportent d'autres réponses, effectivement. Et ça, notamment, le fait, alors ça c'est quelque chose de tout à fait classique chez nous, le fait que toutes les populations humaines aient des pensées religieuses, mais par exemple, vous savez, on dit que le bouddhisme n'est pas une religion, on sort du bouddhisme, enfin, c'est des systèmes de pensée, mais le fait que tout ceci soit partout dans le monde, le fait religieux partout, ça veut dire que ceci est une origine extrêmement ancienne, voilà, c'est l'explication que nous apportons par rapport à cela.
En tout temps également.
En tout temps,
en toute époque.
Vous C'est ça, oui. Et donc ça, c'est beaucoup plus ancien. Et donc, regardez aujourd'hui comment ces grandes pensées, ces grands systèmes, alors, ou religieux, ou pseudo-religieux, on peut discuter, mais en l'occurrence, de voir, en plus des ontologies que j'ai évoquées, comment ces différentes religions aujourd'hui abordent avec beaucoup plus d'aisance ou de difficulté le monde qui est en train de changer aujourd'hui avec la révolution numérique. Les Chinois, parce qu'on parle toujours des GAFA, là, qu'on veut taxer, bah, attendez, les Baxt, Alibaba, Xiaomi, Alibaba, et Tencent, évidemment, etc. Vous avez remarqué quand on regarde des films, Tencent Movies, hein, de plus en plus maintenant, bah, eux, c'est Confucius. Donc pour les Chinois, être noté numériquement, ça ne leur pose pas de problème. Nous, c'est pas notre truc. Nous, c'est les RGPD. Hein. Par contre, les Californiens, soi-disant libertaires, ils sont bien tous fichés. D'accord ? Donc, mais c'est très intéressant de voir quand même que nos rapports à nos grands systèmes de pensée, indépendamment de l'histoire des robots que j'évoquais tout à l'heure, les Russes, c'est pas ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle. C'est pas ce qu'ils font. Et eux, ils ont une autre approche. Mais qu'on retrouve, vous savez que le mouvement transhumanisme se revendique d'un monsieur qui s'appelle Fyodorov à la fin du 19e siècle. Je veux dire, toute la construction théorique et parfois idéologique du transhumanisme californien ont une référence à Fyodorov, donc en Russie, donc ce qu'on appelle bêtement l'âme russe. Alors eux, le transhumanisme, c'est pas l'idée, comme en Californie, avec tout le corps, de prolonger la bonne santé ou les fonctions de notre corps. Eux, c'est transmettre leur âme dans ce machine. C'est encore une autre vision du rapport à la progression fondamentale, à la technologie et par rapport à ça. Ce qu'on voit d'ailleurs dans un film qui s'appelle Transcendance, avec le film est assez moyen, c'était bien. Donc tout ça, ça peut se voir dans des films qui sont plus ou moins bons. Donc voilà, par contre, ce qui est troublant, c'est de voir qu'en effet, il y a un hypermatérialisme extrêmement troublant de la part du transhumanisme. Et il y a toujours pareil, il y en a qui revendiquent même créer une nouvelle religion. Parce que justement, ils touchent à cette question fondamentale qui est les origines, évidemment, et la mort, et ce qui se passe après la mort. Bon, tout ça, ça va, ça vient, c'est pas très sérieux. Mais néanmoins, on voit bien que nous sommes quand même baignés avec Jacques Pigalle dans un re-questionnement par rapport au monde qui vient et la fonction. Donc, culture, leurs problèmes fondamentaux ou autres, même si elles ne sont pas conscientes.
Hein. Et sur la base de votre expérience, vous voyez comment le futur ?
Ah !
On va aller dans quelle direction ? En deux minutes. Hein.
Non, non, juste vas-y.
Ah, excusez-moi, Dominique Amels, l'Institut Sapiens, le fondateur.
Ah, Gabon ? Ah, ben pourquoi vous n'avez pas recruté ?
C'est une question de.
C'est gratuit,
on est tous bénévoles.
Mais là, c'est que
j'aurais été bénévole par
rapport à ce que j'ai mis en sortant de piège. J'avais même déposé à l'époque avec un copain l'histoire d'Institut Sapiens, puis je me dis, il y en a d'autres, je le connais. Ils font bien boulot de refaire.
Non, mais c'est alors Alexandre. C'est pas la même chose.
Plus compliqué.
Il est beaucoup plus compliqué, on est pas
étonné. Non, mais lui, il est anxiogène.
Ah, il est anxiogène, il est très. Enfin, non, c'est pas les
bases. La question, c'était quoi ?
Non, la question, c'était comment vous voyez la prochaine étape ? C'est quoi la prochaine slide, hein ?
Ouais, écoutez, ce qui se passe actuellement, là, c'est un débat plus large que celui, même s'il est très large, celui des religions, on a bien effleuré. Mais on a aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement inquiétant, qui se passe dans tous les pays. C'est la bipolarisation de nos sociétés. Cette bipolarisation pose énormément de problèmes. Puisque, alors ça, vous pouvez vérifier dans ce livre, qui s'appelle « Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques et les robots », qui a dû intéresser d'ailleurs l'Institut Sapiens, c'est que j'avais complètement anticipé, mais sous le regard de l'évolution, bien sûr, ce qui est en train de se passer actuellement. L'élection de M. Macron et les Gilets jaunes. Pourquoi ? On a à peu près le match, monsieur. Et nous sommes, pour les gens autour de la soixantaine et plus, on a vécu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Espérance de vie, culture, liberté, santé, progrès social, progrès dans les conditions de travail, vie affective, on n'a jamais connu ça. Et avec l'émergence de ce qu'on appelle les classes moyennes, qui ont probablement choisi un milieu de paysans, les maraîchers, toute la génération, c'était comme ça. Donc c'était un grand mouvement. Et on ne se posait pas de questions. Dans des places de mon ami Luc Ferry, mai 68, c'est l'ouverture de l'université. Les gens sont en éducation populaire, comment on peut en profiter, au Collège de France, voilà. Donc ça, c'était un grand mouvement, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est en train de se déliter, puisqu'effectivement, ça commençait avec l'élection de M. Obama, il y avait des manifestations qui étaient « Save the middle classes », sauver les classes moyennes. Et le problème, c'est que les technologies, on ne l'avait pas bien compris, les technologies impactent les métiers techniques. Bon, ça veut dire quoi? Il y a un film qui explique très bien ça, c'est Grand Torino. Vous savez, le film est merveilleux, cet homme a vu ce monde changer d'un seul coup. C'est-à-dire que souvent dans les classes dites populaires, dans le sens du terme, quand les jeunes font des études, c'est souvent des bacs plus 2, bacs plus 3. Vous savez, c'est des métiers qui se voient, socialement c'est repérable, c'est pas très long. On a les moyens financiers de soutenir, et puis c'est des métiers qui sont très utiles à la société. Techniciens, infirmières, etc. Et le problème, c'est que quand les technologies arrivent, bousculent les tâches, pas les métiers, eh bien, ce sont les métiers techniques qui sont directement impactés. Et c'est ça qui est en train de se développer aujourd'hui, qui pose problème. Regardez, je terminerai là-dessus, la Californie, c'est symptomatique. Enfin, paradigmatique. La Californie, c'est l'État le plus riche des États-Unis. C'est là qu'il y a le plus de millionnaires et de milliardaires. La tech, Hollywood. C'est l'État qui a les lois les plus avancées socialement, avec le SMIC à 15 euros horaire, et les lois sur l'environnement. Et pourtant, ils se coltinent, comme c'est pas possible, des incendies déments, et c'est là qu'ils ont le plus de pauvres. Et pas à cause de l'immigration, parce que tous ces gens travaillent. C'est ce qu'on appelle la gig economy, qui vient de la danse et de la gig. C'est-à-dire des gens qui cumulent des petits boulots, 3-4 boulots, qui n'arrivent pas à se loger, qui ont des vies familiales extrêmement tendues ou s'ils en ont, etc. Et là, la Californie, la Silicon Valley, alors qu'on a une crise majeure à cause de l'immobilier, etc. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pendant 50 ans, ce qu'on appelle trop encore chez nous, enfin 40 ans, toute une classe sociale a avancé avec l'évolution de nos sociétés, et aujourd'hui, elle était très bien adaptée à son environnement. Parce qu'elle a coévolué avec, et aujourd'hui la société change. Et donc, quand la société change, ce sont ceux qui sont les mieux adaptés pour le monde tel qu'il est advenu, qui sont en train, qui sont impactés. Donc, c'est une bipolarisation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Alors, il y a autre chose qui m'inquiète aussi, c'est cette bipolarisation, elle affecte de manière très différente, justement, ces deux pôles de nos sociétés. On est passé du dromadaire, donc, au chameau. Pour la plupart des personnes qui sont ici, d'ailleurs tout le monde, instruits, éduqués, métiers intéressants, etc. Ça va continuer, mais pas de manière aussi spectaculaire. Mais ça va continuer. L'autre problème, c'est que vous avez vu les statistiques qui sont sorties récemment sur l'obésité et le surpoids au collège. En France, 18% des collégiens et collégiennes ont surpoids et 8% obèses. Mais là, il y a une différence énorme. C'est que les garçons et les filles qui sont issus de classes populaires ou défavorisées, et bien évidemment les proportions sont beaucoup plus importantes dans cette tranche-là. Et on voit aujourd'hui baisser l'espérance de vie, on va baisser la libido, les sexologues me disent qu'il y a une perte d'appétence, indépendamment des problèmes de hormones, etc., c'est pas la question, mais il y a une perte d'appétence autour de. Pour des gens qui connaissent les années 60-70, c'est quand même assez prudent. Baisse d'expérience de vie, je l'ai dit, baisse d'activité physique, perte de la vision de loin, féminisation hormonale des garçons. Hormonale des garçons. Ah. Les filles qui sont matures beaucoup plus tôt, quand on était jeunes, les filles étaient matures donc, au collège, maintenant c'est à la sortie de l'école primaire. Pardon. Les pertes du matin entraînées, donc la fertilité des hommes, c'est une catastrophe, effectivement. Et tout ça, c'est et puis la pollution qui est devenue la première cause de mortalité dans le monde. Donc voilà, ça vous connaissez bien, vous êtes institut, vous travaillez là-dessus, mais on revient. Et ça, c'est bipolaire.
Reste optimiste.
Mais bon, pour la génération. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit, mais qui est très important. Les espèces humaines, et surtout la nôtre, on la tient, donc on sait comment ça se passe, nous sommes des espèces extrêmement plastiques. Nous pouvons changer très vite en termes de morphologie, qui est la taille et la forme, en termes de physiologie, on sait qu'il y a une microbiote et tout ça, et d'un point de vue cognitif. Alors, la plasticité, c'est super quand ça va dans le bon sens. Seulement, ça peut aller aussi très vite dans le mauvais sens. Et c'est ça qu'on a entendu aujourd'hui, et le monde qui vient. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un changement de société comme ça, on a un changement de gouvernance.
Et est-ce que ça va ramener les gens vers la religion?
Une partie, oui, bien sûr.
Pour conclure sur un sujet.
Non, mais bien sûr. Non, mais ces enjeux là, qui nous intéressent là vont évidemment intervenir. Le retour des créationnistes et des évangélistes, parce que attendez, là en France, on a peur de l'islamisme. Ok, c'est bon, mais je rappelle que c'est quand même les créationnistes américains qui ont foutu le bazar. Et là, effectivement, le créationnisme de la Bible Belt, c'est un refus radical du monde actuel et qui, évidemment, retrouve beaucoup de sensibilité dans justement le pôle. On a une belle fille qui était d'origine brésilienne, alors elle n'était pas dans le FBA, mais ce n'était pas génial, mais honnête. Et elle nous dit, et c'était, il y a des problèmes d'ailleurs pour le Vatican, enfin, en tout cas, c'était comment l'évangélisme s'est diffusé comme l'islamisme radical dans les classes les plus défavorisées. Et là, les grandes religions ont failli, désolé, en tout cas, les grandes religions instituées ont failli par rapport à ça. Et donc, il y a tout un terrain qui est favorable à. Plus que comme le retour des populismes, malheureusement le terrain est favorable à ça. Donc on ne pourra pas avoir un avenir, en tout cas souhaitable, si on ne résout pas rapidement ces questions donc, de bipolarisation du monde, enfin de nos sociétés, pardon. C'est plus comme quand on était jeunes, c'était nord-sud, c'est terminé, c'est au sein de chaque pays maintenant.
La bipolarisation, comment vous la définiriez?
C'est-à-dire que vous n'avez jamais autant de gens qui vont bien, qui sont riches, qui sont épanouis, et les autres qui décrochent. Et entre les deux, on a. Et le problème des gilets jaunes, c'est de savoir quel côté ils vont tomber.
C'est peut-être aussi parce qu'on n'a plus d'horizon à découvrir
comme avant, de parler. Exactement. Et donc, si on avait l'horizon, il y a la tentation, comme disait monsieur, il y a la tentation de se raccrocher, évidemment, à des formes de croyances plus fondamentales, en tout cas d'espoir.
Soit une seule ou une fausse religion.
Et également.
Parce que vous
avez étudié à
des groupes qui ont voyagé
500 000.
Quel serait aujourd'hui
le prochain
horizon à découvrir?
Il n'y en a pas sur la Terre. Et c'est là que les transhumanistes. Ils nous disent on va aller sur Mars. Ils nous disent on va trouver, comme à la Renaissance, chercher les Dorado, des voyages. Donc ils nous promettent des voyages. Ou alors ils promettent des villes isolées. Et donc là, et ça c'est extrêmement dangereux parce que les paradis, il n'y a jamais eu de paradis perdu, si on en a jamais eu. Mais ce sont, je vais vous dire, ils proposent d'envoyer sur Mars, mais j'y vais pas, je suis tout seul sur ce caillou.
Mais peut-être qu'il y a des horizons qu'on fréquente et qui sont pourtant toujours indépensables.
Alors là, il va s'échouer.
Je sais pas, l'amour.
Là, c'est l'amour humain. L'amour humain, bien sûr.
Par exemple.
Peut-être les horizons qu'on a déjà fréquentés sont pourtant toujours indépassables.
Est-ce que pour l'époque,